Chapitre 12. Atroce boucherie. Selon notre coutume invariable, nous allons retourner en arrière. Le lecteur n'a pu oublier les lettres brûlantes envoyées dans les noisettes à Elvire de Rue de Lame au moment où elle était encore que la recluse de la chambre nuptiale transformée en tombeau. Ces lettres nous ont laissé deviner l'état du cœur de Boulet Rouge. Il aimait avec la fougue des bêtes féroces et jusqu'au point d'assassiner sa compagne pour convoler avec l'objet de son caprice. Cette circonstance aggravait sensiblement la position d'Elvire et s'en était fait d'elle sans l'arrivée si brusque du généreux Mustapha. Elle le reconnut d'un coup d'œil et sans avoir besoin d'autre témoin que ses yeux, parce qu'elle avait eu avec lui antérieurement à son mariage des privautés sans conséquence. Mustapha, tout seul, valait très certainement trois pieuvres mâles par son intelligence, son instruction et son courage. Mais il était sans armes, et en outre, son oreille de vieillard le gênait vaguement. Messa, Sali et Lina, au contraire, étaient armés avec abondance, et le principal d'entre eux sentait sa vigueur doublée par l'aiguillon de son amour. Le combat était inévitable et s'annonçait comme devant être un des plus intéressants de l'ère moderne. Mais nul n'aurait pu y curer en ce moment à quel degré d'intensité furieuse ces circonstances allaient le porter. N'en perdons aucun détail. Aussitôt que leurs yeux se furent reposés sur le jeune cocher de fiacre, Messa Sali et Lina poussèrent une triple exclamation voisine de la stupeur. Mais Messa, nommé aussi Boulet Rouge, eut néanmoins la présence d'esprit de faire ce raisonnement. Son entrée n'est pas plus étonnante que la nôtre. Pendant cela, Elvire balbutiait parmi ses sanglots. « Mon cher cousin, sauvez, virtuté. Il faut à nos poumons une certaine quantité d'air respirable, fixée par la science. Mon fils doit-il gêner dans ce cercueil ?»« Ce serait une superfluité, croyons-nous, de vouloir mentionner minutieusement l'état moral des piqueuses de bottines réunies. Ces filles du peuple étaient anéanties par la terreur. » Boulet Rouge eut d'abord l'idée de dissimuler. Il comptait sur son emplâtre de dimension inusitée pour n'être point reconnu. L'eau qui change les physionomies en avait en effet modifié la forme et la couleur. « Cocher fidèle, dit-il avec une pointe de sarcasme, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» « Rebut d'une civilisation trop avancée, » répondit sévèrement Mustapha. « Ne cherchez pas à m'abuser par des détours. Je devrais vous punir sans autre forme de procès, puisque vous êtes venu ici dans la coupable intention de verser l'élixir pernicieux à tout un atelier de jeunes ouvrières. Mais la chance des combats est incertaine. » Et mon plus sacré devoir consiste à sauver ma noble parente et mon enfant. Je vous propose donc un arrangement particulier. Laissez-moi Madame Fandango, née de Rue de Lame, et son jeune fils, contenu dans le cercueil, et je vous permettrai de vous retirer avec la vie sauve. » Un long éclat de rire accueillit ces paroles. Les malfaiteurs y virent une crainte cachée, et cette erreur doubla leur effronterie. Boulet Rouge ne daigna même pas répliquer. Pour bien montrer qu'il brûlait ses vaisseaux, il détacha son emplâtre, la plia et la serra dans sa poche, afin de ne pas la détériorer dans la bagarre. Puis il déroula un long lasso en cuir de buffle, fabriqué dans les parties les plus sauvages de l'Amérique du Sud, et le lança avec adresse autour du cou de Mustapha. Celui-ci eut le bonheur de l'éviter par un saut de côté qui le porta non loin de Carapace. Carapace était en garde avec une hache affilée comme un rasoir. Il en asséna un coup terrible sur le généreux Mustapha, qui l'esquiva et passa à portée d'Arbre à couche. Arbre à couche avait choisi pour arme une scie, avec laquelle il essaya de séparer en deux parties égales le corps de son adversaire. Mais le fils du grand chef des Ancas profita de ce mouvement pour le saisir par les jambes et lui faire mordre la poussière. Les pieuvres mâles, dans leur rage insensée, imitèrent le cri de quelques animaux. Mustapha, cependant, s'était emparé de la scie et en trois traits, il avait verticalement coupé Arbre à couche. Elvire se prosterna et bénit le Seigneur. Oh, c'était prématuré. La hallebarde de Boulet Rouge et le canjar de Carapace menaçaient déjà la noble poitrine de Mustapha. Il scia d'abord la hallebarde en se jouant, puis ramassant à terre le bon bout, il en fit une arme bien plus commode que la scie. Malheureusement, il ne put éviter l'atteinte du canjar, qui se plongea en prémissant dans son abdomen. Cette blessure le contraria, mais ne l'abattit point. D'une main ferme, il contint les organes qui voulaient s'échapper par cette horrible plaie, et de l'autre, brandissant sa moitié de hallebarde, il fracassa les têtes de ses deux ennemis en un clin d'œil. Elvire, toujours prosternée, remercia ardemment l'Éternel. C'était encore prématuré. Cinq coups de feu retentirent dans la chambre voisine, et le malheureux Mustapha, après avoir tourné rapidement sur lui-même et bondi jusqu'au plafond, tomba baigné dans son sang. Elvire poussa un cri de détresse. Elle avait tort. La porte de l'escalier s'ouvrit, donnant passage aux rémouleurs, aux gendarmes, aux joueurs d'orgue, aux prêtres éthiopiens et au vénérable Silvio Pellico, que nous nous sommes promis d'appeler désormais le grand chef des Ancas. Derrière eux venait le nouveau mari de la jeune grecque Olinda. Nous ne sommes pas parfaitement sûrs du nom que nous lui avons donné. Ce doit être Faustin de Boitor ou quelque chose d'analogue. Rien de plus facile à expliquer que la venue de tous ces bons cœurs. Il n'avait eu que la rue de Sévigné à traverser, et le lecteur pourrait même trouver qu'ils étaient en retard. Mais les cinq coups du mousquet dirigés contre Mustapha, hein, cela mérite un éclaircissement. Nous avons déjà spécifié que la faction de Montaroux, l'assassin du vrai cocher de fiacre, avait été longtemps superflu à cause de la voiture de vidange qui lui cachait l'entrée de la maison du repris de justice. Il n'avait pas néanmoins complètement perdu son temps. Du haut de son siège, il avait guetté les passants et arrêté tous ceux qui appartenaient aux ténébreuses associations, maladie de la capitale. Dieu sait qu'il n'en manque pas la nuit dans ces quartiers populeux. Au moment de l'explosion, Montaroux avait rassemblé autour de son fiacre 17 individualités déclassées, au nombre desquelles on pouvait compter Coloquinte, du Plat d'Étain, Pile de Pont, le Tigre de l'Impasse du Marché Sainte-Catherine, la Ribelle, des Arts et Métiers et 3 des 11 serpents à sonnette du Pont de Notre-Dame, et Croquental faisait aussi partie de ce club. C'était le dernier des Mohicans. Ils étaient déjà là d'attendre et sur le point de se retirer lorsqu'ils virent un corps étranger traverser la rue et percer la croisée du troisième étage de la maison surveillée. Au vol, Croquental avait reconnu la taille et la démarche de Mustapha. Montaroux alluma aussitôt sa chandelle romaine qui monta à étoiles sinistres vers les cieux. Ne vous étonnez point du temps qui s'écoula entre ce signe et les cinq coups de mousquet tirés sur Mustapha. Il fallut d'abord trouver des échelles de cordes, puis envoyer des émissaires dans toutes les directions, les uns pour allumer le grand feu sur les montagnes, les autres pour sonner le tocsin aux paroisses, les autres encore pour prévenir à domicile les membres de la criminelle association. Chacun comprenait qu'il s'agissait d'un cataclysme. Montaroux se chargea lui-même d'aller chercher le duc de Rudelame au café de Rohan où il regardait jouer la ponte. Ceux qui montèrent aux échelles de corde étaient au nombre de 10. Ils portaient tous des carabines d'un nouveau système et des revolvers brevetés, le tout revêtu de la bénédiction papale. Pile de Pont avait en outre un sabre d'honneur. Comme signe de ralliement, ils avaient adopté la fleur de pivoine et le cri du ramoneur savoyard. Par une coïncidence au moins étrange, ils firent feu sur le glorieux Mustapha au moment même où les bons cœurs débouchaient par la porte de l'escalier. Les deux parties se trouvaient ainsi en présence tout naturellement. Les bons cœurs, commandés par Silvio Pellico, doyen d'âge, les fléaux de la capitale par Colocane du plat d'étain, qui avait été employé d'octroi. Silvio Pellico, récemment grand chef des Ancas, dégaina le premier en criant « Malade du docteur Fandango !» Coloquinte arma son revolver béni en répliquant « Pauvres mâles, les vampires des différentes impasses de Paris !» Nous venons sauver Madame Fandango, ajouta Silvio Pellico. Nous venons, répondit Coloquinte, venger Messalina. Alors, ce fut un choc effroyable, suivi d'une mêlée dont rien ne peut donner une idée même approximative. L'affaire de l'explosion de la machine infernale n'est qu'un jeu de bébé auprès de ce plantureux carnage. La bataille, qui avait commencé avec une vingtaine de combattants, se nourrissait incessamment de nouveaux venus. Olinda, la jeune grecque dont l'absence a pu être remarquée, était en effet partie avec Mandina et d'autres pour battre le tambour dans les rues et avertir ainsi les malades du docteur Fandango. De leur côté, les animaux féroces des impasses, au moyen du tocsin et des feux allumés sur les collines, des décharges d'artillerie et de prospectus, avaient rassemblé les innombrables spectateurs du mal. On accourait, on se pressait, de l'Orient et de l'Occident, du Midi et du Septentrion. Paris, en cette nuit fatale, s'était divisé en deux vastes armées. Il ne restait dans les maisons que les paralytiques et les personnes à l'agonie. Parvenus dans la rue de Sévigné, les deux queues distinctes ne se mêlaient point. Les ennemis de la morale éternelle et de la société montaient par l'échelle de corde, et les bonnes consciences gravissaient les marches de l'escalier, et toujours, on ne peut évaluer à moins de 400 000 âmes les membres actifs de ce prodigieux conflit. Et jusqu'à présent, tout s'était fait avec un tel mystère que la police n'avait pas le moindre soupçon. Bien entendu, les malheureuses ouvrières, composant l'atelier des piqueuses de bottines réunies, avaient été foulées aux pieds, écrasées dès le premier moment. Elles étaient maintenant enfouies sous les cadavres à une très grande profondeur, car le résidu de la bataille s'élevait jusqu'au plafond et les nouveaux venus, pour s'entregorger, était obligé de se tenir à plat ventre. Les trois apprentis chorégraphes, toutefois, étaient parvenus à faire surnager la pointe de leur bottine droite. Et des deux côtés, toujours, il arrivait du renfort, les pieuvres mâles par l'échelle, les corps loyaux par l'escalier. Le sang suintait comme la cuvée dans le pressoir. Une chose singulière et même invraisemblable, c'est que Messa, Sali et Lina, malgré leurs affreuses blessures, étaient parvenus à se dégager. C'était des natures exceptionnelles. Ils s'occupaient tout droit à verser de l'élixir funeste et pernicieux dans les plaies béantes des blessés. Boulet Rouge avait fait un paquet d'Elvire et du cercueil d'enfant. Il avait pendu ce paquet à la fenêtre au dehors, de sorte qu'il était certain maintenant d'assouvir et ses désirs et sa vengeance. Il ne restait plus qu'un espace de 18 pouces entre les cadavres amoncelés et le plafond, Lorsque monsieur le duc de Rudelame Carthagène, revenant de voir jouer la poule, fit son entrée à la tête de ses gardes particuliers. Ce devait être le coup de grâce, car les bons cœurs commençaient à faiblir. Tous nos amis étaient engloutis, excepté Silvio Pellico, dont la tête respectable se montrait encore au-dessus du hachis humain. Mais à cet instant suprême, un coup de tonnerre éclata du côté de l'escalier. Une grande lueur se fit. C'étaient les deux prunelles du docteur Fandango. Il arrivait sans armes et portant encore sous son bras sa mère chérie, la princesse Troïka, des ruines de Palmyre. Tout changea de face aussitôt. Rien n'égalait la puissance de cet homme extraordinaire, d'où nous n'avions pas abusé parce que nous le gardions précieusement pour les effets de notre dernier chapitre. Chapitre 13. La poudre a dévoilé les trucs. Au seul aspect du fils de la condamnée, tenant son illustre mère sur son bras, tous les malfaiteurs s'enfuirent comme une volée d'oiseaux farouches. Le duc lui-même, dissimulant sa tête de hibou sous l'austère capuchon d'un moine, disparut par le plafond. Boulet Rouge avait pris les devants avec un paquet de taille considérable, puisqu'il contenait non seulement le cercueil d'enfant, mais encore l'accouché de l'allée sombre. Fandango l'aperçut au moment où il s'évanouissait à travers l'épaisseur d'un mur. Un soupçon lui poignarda le cœur. « Où est Mustapha ? » s'écria-t-il de cette voix mâle et sonore que nous avons connue au faux porteur d'eau de la nuit des noces. Personne ne lui répondit. Il n'y avait là que Mandina qui cherchait, parmi les dépouilles, de quoi se composer un deuil pour la mort du gendarme. Olinda en quête de son frigolin, et le jeune Gringalet, lequel n'avait jamais connu les embrassements de l'huissier. « Mais je veux Mustapha !» reprit le docteur Fandango. « Il est l'homme de la situation. C'est lui qui possède la poudre pour découvrir les passages secrets. » Avec cette poudre, il faut bien le dire, on trouvait aussi les escaliers, les robets, les trappes et les doubles fonds. Elle coûtait cher, mais elle était indispensable aux natures généreuses qui poursuivaient le crime à travers les mystères de Paris. Silvio Pellico prit la parole, quoiqu'il eût des cadavres jusqu'au menton. « Je ne sais si je m'abuse, dit-il, peut-être mes malheurs ont-ils diminué ma sagacité, mais il me semble que mes pieds, autrefois si agiles, sont posés à une grande profondeur sur une figure connue. La vie sauvage que j'ai menée jadis dans l'Amérique du Sud aiguise et développe les sens. Mon oreille, encore très subtile pour son âge, croit reconnaître le généreux nez de Mustapha. Déblayez, ordonna le fils de la condamnée. Quiconque me retrouvera Mustapha recevra franco tout ce qui a paru de ce roman en cours de publication. Gringalet aimait les lectures qui exercent l'esprit en fortifiant le cœur. Il se mit à l'œuvre aussitôt, aidé par la jeune grecque Olinda et Mandina de Hachecor. C'était peu de femmes et un enfant, mais Fandango les électrisait du regard et Silvio Pellico les intéressait en racontant ses infortunes. En quelques minutes, l'atelier de feu les piqueuses de bottines réunies fut débarrassé de toutes les matières organiques qui l'encombraient. Sous ces ordures, on retrouva non seulement le noble Mustapha, mais encore le rémouleur, le joueur d'orgue, le gendarme et même Frigolin de Torbois. Ils se portaient tous aussi bien que le permettaient les circonstances. En les voyant rassemblés encore une fois sous ses yeux, Fandango fit éclater sa joie. Il mit sa mère chérie en bandoulière, pour avoir désormais l'usage de ses deux bras, et dit « Paris !» Et les bons cœurs répondirent « Palmyre !»« Moi, je tiens à voir vos cachets, » dit encore le fils de la condamnée. Ils se dépouillèrent, sauf Mustapha, qui se borna à montrer son oreille de vieillard. Fandango reprit « Je suis satisfait. Aucun traître n'a réussi à se glisser parmi nous. Écoutez-moi bien. La maison du repris de justice où nous sommes est une des demeures les mieux machinées du Paris nocturne et mystérieux. Le nombre des passages secrets, trappes, pierres de taille montées sur pivot, plafonds mobiles, planches à bascule, murs où l'on marche, cheminées à ressort, armoires à escalier, sarcophages, oreilles de Denis le Tyran et autres oubliettes, y est littéralement incalculable. Nos ennemis sont disparus, mais je suis sûr qu'ils sont tous cachés dans l'épaisseur des cloisons. En conséquence, c'est le moment ou jamais d'utiliser la poudre à dévoiler les trucs. « C'est le moment !» répliquèrent tous les bons cœurs d'une seule voix. Et Silvio Pellico ajouta « Ou jamais !» Mustapha avait compris. Il sortit de son sein une boîte systématique, analogue à l'appareil connu sous le nom d'insecticide Vika. Avec une adresse consommée, il mit en mouvement le petit soufflet dont il avait préalablement dirigé la bouche vers un coin de la muraille. Au premier grain de poudre qui toucha le mur, une porte apparut. Mustapha fit glisser le soufflet. Une seconde porte se montra, puis deux, puis trois, puis dix. Le mur n'était que porte, conduisant toutes dans des lieux inconnus. L'assemblée fit éclater sa surprise, et Silvio Pellico s'écria « Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil, moi qui ai régné sur l'Araucanie !» Mais le docteur Fandango, ayant assujetti plus solidement derrière son dos sa mère respectée, réclama le silence d'un geste. « Partisan de la vertu, dit-il, soutien fidèle de la probité et de la délicatesse, nous allons entamer une œuvre difficile. Appelez les bons cœurs qui peuvent être restés dans l'escalier et attention au commandement. Je vais passer le premier, tenant d'une main cette torche et de l'autre ce javelot. Ma mère me suivra puisque je la porte. Mustapha suivra, tenant ma mère par sa jupe. Le rémouleur suivra Mustapha en le tenant par la queue de son habit. Le joueur d'orgue, enfin, vous m'avez saisi. Cette façon de circuler que les enfants appellent la queue-le-le nous est indispensable pour ne pas nous perdre dans les incommensurables détours de cet hôtel. Le but de cette excursion est de trouver Madame Fandango et son fils Virtuté. Y êtes-vous ? « Nous y sommes !» répondit le cœur des habits de la générosité. Sans plus de paroles, parmi toutes les portes, le fils de la condamnée choisit la plus secrète et l'ouvrit à l'aide d'un moyen particulier qu'il serait trop long de décrire. Cette porte était en cœur de chêne munie de contreforts en acier. Aussitôt qu'elle eut roulé sur ses gonds, un air humide et glacé pénétra dans la chambre. C'était une immense galerie et dont certains hommes qui vivent ne soupçonnaient l'existence dans la rue de Sévigné. La voûte en plein cintre était supportée par un quadruple rang de colonnes qui semblait appartenir à l'époque romaine. Au moment où le docteur Fandango mettait le pied sur la première dalle, des rires aigus éclatèrent à l'autre extrémité de la galerie. Il leva sa torche aussitôt et vit dans un lointain confus une sorte de danse macabre. Parmi les figures qui s'agitaient dans ce sabbat, il crut distinguer une tête de hibou et une emplâtre de dimension inusitée. C'en était assez. Il précipita sa course, suivi par sa mère et Mustapha. En approchant, il distingua les traits peu réguliers de carapace et d'arbre à couche. Il put même voir que Boulet Rouge portait toujours son paquet considérable. « Marchons !» s'écria-t-il. À travers la toile de cette enveloppe, mon imagination en délire, croit reconnaître le profil de celle que j'aime. Il n'avait pas achevé que tout disparut. La poudre ! Mustapha aspergea les dalles. La composition connue sous le nom de poudre à dévoiler les trucs a les inconvénients de ses vertus. Elle met à nu tant de mystères qu'on est souvent très embarrassé pour choisir. Ainsi, le loyal Mustapha, ayant fait jouer sa petite manivelle, toutes les diverses colonnes montrèrent à l'intérieur de leur fût des escaliers dérobés. Chaque dalle laissa voir un trou muni d'une échelle dont quelques-unes pénétraient par leurs pieds jusque dans les profondeurs des eaux croupissantes. Mais la sagacité naturelle du fils de la condamnée était à l'épreuve de ces détails. Il alla droit à la dernière colonne et la fendit en deux en touchant un bouton de cornaline, travaillé curieusement. L'intérieur de la colonne renfermait des degrés en colimaçon. Le docteur descendit 27 marches et se trouva dans une rotonde en marbre rouge, autour de laquelle étaient rangées 24 barriques en acajou portant différentes étiquettes, telles que « sang de femme », « sang d'enfant », « sang d'officier », « sang de franc-maçon », etc. Silvio Pellico ne put s'empêcher de murmurer « Oh, ce pari est vraiment cocasse !» Le docteur Fandango ne s'arrêta même pas. Il en avait vu bien d'autres dans sa carrière agitée. Il traversa un pont de lianes, jeté sur un torrent tout blanc d'écume, et pénétra dans une grotte de vaste étendue dont les riches stalactites renvoyèrent en gerbe de lumière la rouge flamme de sa torche. Au bout de la grotte, il aperçut encore au milieu d'une foule, grimaçant, M. le duc de Rudelame-Carthagène, entouré de ses toits prieuveux mâles. « À moi !» s'écria le rémouleur. Il avait fait un faux pas, et la basque de l'habit de Mustapha lui était restée dans la main. Il prit l'autre basque, et l'incident n'eut pas de suite. La grotte ne contenait rien d'important, sinon un dépôt de substances vénéneuses à l'état brut. C'était le grenier d'abondance de la pharmacie du mystère. Silvio Pellico, toujours soigneux, compta 147 caisses d'arsenic et plus de 1000 bouteilles de strychnine non encore épurées. Venait ensuite un long couloir, défendu de distance en distance, par des herses et des chevaux de frise. La troupe fidèle eut quelque peine à éviter les bascules, disposées avec beaucoup d'art. Des deux côtés du couloir, il y avait des râteliers pleins d'armes de guerre. Il se terminait par un mur que Mustapha saupoudra. Ce mur n'était qu'apparent. La composition chimique fut voir qu'il cachait un abîme insondable. Mais une sorte de sentier à pic taillé dans le roc vif s'ouvrait à gauche du précipice. Le docteur, en s'y engageant, ne put s'empêcher de penser tout haut. « Je ne prendrais pas volontiers cette voie périlleuse s'il ne s'agissait de mon fils unique Virtuté et de la bru de la condamnée. » En effet, à peine nos intrépides amis avaient-ils commencé à descendre, que Tancrède, dit chauve-sourire, et quelques autres mauvais sujets, firent pleuvoir sur eux les fusées de la poix bouillante, du plomb fondu, enfin tout ce qu'ils trouvèrent à portée de leurs mains. Les défenseurs de la vertu en éprouvèrent quelques désagréments légers, mais Silvio Pellico, qui avait fréquenté des Anglais nomades en Araucanie, ne marchait jamais sans son parapluie, et comme le sentier était vertical, ce meuble protégea toute la troupe. Ils étaient dans les souterrains de l'arche de Notre-Dame. Après avoir traversé encore de nombreux corridors au bout desquels ils apercevaient sans cesse les sectateurs du mal, reconnaissant à la tête des hiboux de Bisaïeul et à l'emplâtre de Boulet Rouge, après avoir franchi les précipices, monté et descendu une grande quantité d'escaliers, ils arrivèrent enfin dans un asile pittoresque au plus haut point et fort original qui servira de décor à notre dernier tableau. C'était une salle en forme de nef ogivale au-dessus de laquelle passaient les eaux du fleuve. La nuit avait cessé d'envelopper la terre pendant ce long voyage. À travers la voûte de cristal qui recouvrait la nef, à travers les ondes de la Seine qui roulaient au-dessus de la voûte, on pouvait jouir d'un joli effet de soleil levant. Mais là ne s'arrêtaient point les étrangetés de ce curieux séjour. La salle était entièrement bâtie avec des squelettes entiers et à jour, posés dans des attitudes variées et reliés ensemble solidement par un ciment peu connu. Il en résultait une architecture vraiment surprenante et qui ne manquait pas de grâce. Les baisers du soleil marinier, caressant ses dentelles d'ossements, formaient des dessins d'une légèreté inouïe et qui rappelaient les découpures des boîtes de bonbons. Vous eussiez dit un rêve de poète. Silvio Pellico essaya de compter les squelettes employés à cette œuvre d'art, mais il n'y put réussir. Il fit cependant un certain signe que c'étaient tous des malades du docteur Fandango. C'était la fin. Après cette salle magique, il n'y avait plus rien. Aussi, les pieuvres mâles des impasses, chacals, mohicans, casquettes vertes et autres fléaux de la capitale, étaient-ils rassemblés en bataille au milieu de la nef. Devant eux se tenait le duc de Rudelame Carthagène, vêtu du costume historique de Jean Bart. Ce costume était de circonstance. Le bisaïeul tenait en effet dans la main droite une torche allumée et posée au-dessus de 40 tonneaux de poudre fulminante. Dans la main gauche, il avait une chaînette de platine, correspondant à une large soupape ménagée dans la voûte de cristal. Derrière lui, Boulet Rouge tenait Madame Fandango renversée sur une table de marbre. La jeune femme allaitait son enfant. Au-dessus de ce groupe, Arbre à couche et Carapace brandissaient leurs stylets damasquinés. Chapitre 14. Catastrophe imprévue. Nous avons ménagé avec soin le crescendo. La situation est de plus en plus tendue. Ces muettes et terribles menaces n'arrêtèrent nullement les bons cœurs. Le fils de la condamnée fit tourner adroitement sa mère de son dos à sa poitrine et lui tâta le pouls. Bah, elle est sur le point de recouvrer ses sens, dit-il. Finissons. Il arrêta ses compagnons d'un geste et fit 3 pas en avant. « Duc de Rudelame Carthagène, dit-il, rejeton d'une race souillée par tous les crimes, tu as fait à croire à Madame Fandango que notre union était un inceste. Je te donne le démenti le plus formel. ma jeunesse en sa fleur ne peut pas être le père de ta décrépitude. Veux-tu accepter contre moi un combat singulier ? Flûte, répondit l'ancêtre, on vous prie de repasser. Et il ajouta d'une voix sarcastique, où est ton livre, enchanteur à la douzaine ? Où est ta fiole qui parle ? Où est ton cerf vivant qui a des cordes en strass ? Tu es ici chez moi et tu vas mourir. Ces galeries sont inconnues, même aux hommes d'imagination. Elles sont bâties avec les os de tes clients, médecins de malheur. Car tu as soigné et par conséquent conduit au trépas la moitié de la capitale. Regarde une dernière fois ta femme et ton enfant. J'ai à ma disposition le feu. Il secoua sa torche. Et l'eau. Il tira sur la chaînette de platine et quelques chopines d'eau de Seine tombèrent de la voûte. À genoux, charlatan. Ta dernière heure a sonné. La princesse Troïka choisit cet instant pour ouvrir les yeux. De son côté, la couchée de l'allée sombre poussa un gémissement étouffé. Ma mère, ma femme, s'écria le docteur Fandango en levant ses bras vers le ciel. Mais cet homme unique à la volonté de faire ne pouvait se laisser longtemps abattre. Son esprit inventif avait de ses conceptions spontanées, sublimes et renversantes. Se dressant de toute sa hauteur, son œil lança des flammes quand il dit, répondant à la dernière parole du bisaïeul, « Je ne plie les genoux que devant le Seigneur. » Et sa voix se fit douce comme le miel quand il ajouta « Et devant ma maîtresse. » Puis, son organe prenant des intonations terribles, il continua avec fermeté. « Kakoshi, mes coupables vieillards, la discussion ne peut durer un instant de plus sur ce ton. Rends-moi ma famille, je te l'ordonne. Une fois, deux fois, trois fois, alors crains ma colère. En avant tout le monde !» Et il bondit le premier. « À bas les mains !» cria une voix à la porte de la cave. Deux sergents de file entrèrent, suivis par quelques infirmiers. Les fléaux de la capitale et les chevaliers de l'humanité se mirent à courir en tous sens, essayant de se cacher derrière les fagots. Épilogue, le scarificateur. Le lendemain, on lisait dans le scarificateur, journal général de médecine et de chirurgie. L'un de nos plus renommés aliénistes, le docteur QKG, directeur de la maison d'OT, nous adresse la lettre suivante. Monsieur le rédacteur, les feuilles du soir ont fait grand bruit de certaines aventures tragicomiques qui a mis hier en émoi la tranquille population de la rue de Sévigné. On a dit que tous les pensionnaires de mon établissement avaient pris la fuite et porté la terreur dans un quartier de Paris. Ceci mérite explication. Depuis quelque temps, j'ai été obligé d'ajouter à ma maison principale un pavillon destiné au traitement d'une maladie mentale qui semble affecter plus particulièrement les personnes des deux sexes livrées à la lecture habituelle de certains récits que j'appellerais les romans saignants. Les feuilletons du Petit Canard, qui se débitent par centaines de mille, me fournissent spécialement la plus grande partie de ces cas particuliers. Ce n'est pas tout à fait de la folie, c'est un ramollissement de la pulpe cérébrale qui se rapproche davantage de l'innocence. Ces malheureux voient partout des poignards, du poison, des trappes, des pièges, des embûches de toutes sortes. Paris leur apparaît comme une immense ratière où l'on ne peut plus faire un pas sans rencontrer la mort. Le feuilleton traitant des avortements, des vapeurs de charbon, des suicides par amour, nous amène quantité de jeunes filles dont l'innocence a été gâtée par ces lectures malsaines. Ceux, par contre, où il est parlé de morts violentes par la noyade, les sauvages embuscades, les morsures d'aspic à tête noire, la strangulation, etc., nous font regorger immédiatement de vieillards et de jeunes hommes idiotisés par ces récits pernicieux. D'habitude, mes pensionnaires sont bien tranquilles. Hier, malheureusement, le vieil infirmier qui les garde était de noces. Ils se sont échappés et sont venus jouer dans un taudis, une scène de leur art, drame favori. En somme, pour tout dégât, il y a eu un carreau de cassé et le bruit d'un loquet donnant accès dans la cave d'un rôtisseur. L'indemnité a été réglée et soldée. Je vous prie, monsieur le directeur, de porter ces faits à la connaissance du public en acceptant l'assurance de ma parfaite considération. Signé QKC, docteur médecin, directeur de l'asile central d'OT pour les aliénés des deux sexes. Fin.